Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux.
On va continuer à en parler, notamment de la lutte cette fois-ci contre le racisme, le nouveau visage de l'antiracisme. Je vous propose que nous accueillions sur ce plateau une nouvelle invitée, Safia Haït Warabi. Salut Safia.
Salut.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir de te recevoir à nouveau.
Ouais.
Tu étais déjà venue sur le plateau de Backseat, c'était en mars dernier. À l'époque, tu étais vice-présidente d'SOS Racisme et depuis, tu as démissionné.
Tout à fait. Qu'est-ce
qui s'est passé?
Bah écoutez, je pense que vous le savez, on est dans une période bien particulière de guerre au Proche-Orient, de guerre en Israël-Palestine. Je pense que c'est un conflit qui a toujours été structurant en France. Il n'est pas seulement importé. En fait, il vient révéler des dynamiques en fait dans les organisations. Moi, j'ai milité à SOS Racisme à mes 16-17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 ans. Donc, j'ai aussi avancé avec une certaine politisation dans l'antiracisme. Moi, mon histoire militante, c'est au collège m'être d'abord politisée sur la question palestinienne avec une maman qui est juive, un papa qui est musulman. Et ensuite, être frappée et choquée par les attentats de 2015, l'islamophobie qui en a suivi. Et j'ai cherché un engagement. Sachant que le mouvement antiraciste en France... Il y a plein de niches différentes.
Il y a plein.
Il y a les familles de victimes de violences policières. Il y a la question des migrations et des travailleurs sans papiers. Il y a la question des quartiers populaires. Et en fait, le seul espace d'engagement qui peut accueillir de la jeunesse, c'était SOS Racisme, pour le coup. Parce qu'en fait, le mouvement antiraciste a un défaut de structuration générale où on se retrouve en réalité avec très peu d'organisations dans lequel une jeunesse peut s'investir en étant justement à l'intersection de toutes ces niches de l'antiracisme.
Et SOS est historiquement un mouvement de jeunesse, pour le coup. Ça a toujours été un mouvement de jeunes, de lycéens, d'étudiants contre le racisme. Ça a toujours été ça.
Exactement. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé mon militantisme, quand j'ai commencé à SOS, avec le syndicalisme lycéen. Ça crée quand même une identité particulière, qu'on le veuille ou non, que d'autres dirigeants SOS Racisme n'avaient pas. C'est que moi, je voyais beaucoup l'antiracisme aussi à travers l'apport du mouvement social. Moi, je suis persuadée que, en fait, dans le mouvement social, on rencontre des acteurs que peuvent être les travailleurs, les étudiants, les lycéens, les travailleurs sans papier, les chômeurs, rencontrer des parties de la société qui, a priori, ne sont pas sensibles à l'antiracisme. Et en fait, réunir des secteurs, parfois, dans des fronts unis sur nos luttes, permet de gagner. Et cette sensibilité au mouvement social, moi, je pense qu'il est primordial parce qu'on est passé, qu'on le veuille ou non, en fait, d'un contexte d'un mouvement social environ tous les deux ans, à trois mouvements sociaux par an. Mmh. Et cette année, elle a été déterminante. Mmh. Moi, c'est ce qui fait qu'en fait, on est plein de jeunes à être partis de SOS Racisme. Je reviendrai sur ma démission, mais en fait, c'est un choix qui est collectif. On est passé de la réforme des retraites à Naël, à la Baïa, à la Palestine. Et ce qu'il s'est passé, c'est que depuis le 7 octobre, premièrement, il y a eu un désaccord fondamental avec la direction de l'association dans laquelle, dans laquelle je faisais partie. C'était qu'en fait, nous, on avait constaté dans le secteur, notamment étudiant, mais aussi avec d'autres militants jeunes, qu'on avait l'impression que la direction participait à l'invisibilisation ambiante des victimes palestiniennes.
D'accord. C'était un premier reproche que tu faisais.
C'était une première chose, sauf que nous, on pensait que ça pouvait être réglé par des cadres de discussion démocratiques entre militants, entre la direction, entre différentes générations, parce que je pense qu'il y a des lectures qui sont complémentaires. Je pense que notre génération, elle a besoin de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que le Hamas? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'État d'Israël? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir des directions d'extrême droite au Moyen-Orient qui se font face? Quelle est la spécificité des attaques du 7 octobre avec des violences sexistes et sexuelles qui ont eu lieu? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir un nettoyage ethnique à Gaza? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui de poser des choses sur la table. Mmh. Et ce refus d'espace démocratique, il a donné lieu à une rupture idéologique qui a eu lieu notamment le 2 novembre, puisqu'en fait, dans un communiqué qui a été sorti, pour lequel personne, même pas moi en tant que membre de la direction, ont été consultés. En fait, le problème, c'est que moi, à chaque communiqué qui est sorti, je n'ai jamais été consultée. C'est une période où on m'a interdit l'utilisation de mes réseaux sociaux. On m'a demandé de supprimer des communications quand je parlais du conflit israélo-palestinien. Et en fait, donc moi, face au fait que je ne pouvais pas m'exprimer publiquement, face au fait que des militants avaient beau me demander qu'ils n'avaient pas de cadre d'expression démocratique, on se retrouve avec un communiqué le 2 novembre, jour où l'ONU parle d'un risque grave de génocide, jour où il y a 10 000 morts à Gaza, dont un tiers d'enfants, qu'Israël avait le droit de se défendre.
D'accord.
Il y avait pléthore de revendications, dont le cessez-le-feu, dont la libération des otages. Mais en fait, un 2 novembre, avec une telle gravité, dans une guerre qui éloigne tous les processus de paix possibles, qu'on parle d'un État ou de deux États, ce n'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Et ça nous a fait réaliser qu'en fait, il y avait des choses que peut-être en tant que militant, on mettait sous le tapis, c'est que ça nous a fait remonter une inquiétude plus générale. Okay. C'est que, en fait, sur Naël, moi, j'anime le comité de Nanterre. Ben, en fait, nous, on s'est donné à fond pour faire un meeting à la rentrée, pour déployer une banderole, pour rencontrer la famille. Et en fait, la direction de l'association n'a pas proposé un plan de moyen et long terme. Sur la Baïa, certes, on a pris position contre les décrets, mais on nous a refusé d'avoir une campagne pour obtenir l'abrogation du décret. Et en fait, on se rend compte que sur les questions de violence policière, d'Abaya, de Palestine, ce sont des questions qui structurent profondément la jeunesse, mais qui ont à voir avec un acteur structurant et principal dans le racisme et dans la société, c'est l'État. Et en fait, quand on prend du recul, bah, c'est aussi l'association dans laquelle j'ai milité, dans laquelle j'ai aussi appris plein de choses, dans laquelle j'ai rencontré beaucoup de monde, en fait, refuse de parler de racisme d'État. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte où on a un gouvernement qui se radicalise, qui fait remonter justement toute la nature fondamentale de l'État, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ça? Je ne suis pas sûre.
On continue, Usul?
Moi, j'ai trouvé ça... J'ai vu ton post... excuse-moi, je te tutoie, mais parce qu'on s'est vu aussi
ouais,
au forum,
y a pas de souci.
À Lyon, au forum d'antifasciste. Et j'ai fait « Ah, putain, il se passe quelque chose, là !» c'est important ce qui s'est passé. Je connaissais pas là ce que tu viens de raconter sur les méthodes, savoir qu'on t'a fait taire, qu'on t'a coupé l'accès au réseau, etc. Donc ça rend le truc encore plus. Évidemment, vous ne pouviez que partir derrière, mais ce départ collectif sonne vraiment comme une rupture que moi évidemment je vois comme beaucoup de monde depuis. T'as parlé de 2015, c'est quand même assez évident, qui pour moi se fait sur la question de l'islamophobie. On a l'impression que les sujets sur lesquels tu dis que il y a une rupture, c'est quasiment Manuel Valls, quoi, un petit peu les positions en face, c'est-à-dire pro-police, y a les deux gauches irréconciliables, c'est pour ça que je pensais à Manuel Valls. Comme s'il y avait deux cultures antiracistes, une un peu des années 80 institutionnalisées, et moi c'est vrai que je me dis...
Universaliste, c'est ça le mot qui est souvent utilisé pour la décrire.
Non, moi je ne dirais pas universaliste.
Eux, ils l'utilisent pour se définir.
Ah bah eux, oui, s'ils veulent, oui, mais je ne sais pas ce que je dirais. Une culture issue des années 80, très institutionnalisée, dont on connaît l'histoire, hein, SOS Racisme, sa fondation, là ça va être l'anniversaire d'ailleurs de la marche de 83, dimanche il y a une manifestation notamment hommage à la marche de 83. Y a un documentaire d'ailleurs sur France 5 qui a passé le soir, je vous le conseille.
Ouais.
Et donc voilà, il y a une rupture générationnelle qui se fait avec des nouveaux discours. Et j'avais pas tellement de questions, si ce n'est quelles sont les perspectives. Il me semble qu'il est question de créer justement ce dont tu parlais un peu plus tôt, à savoir une grande orga antiraciste, généraliste, qui soit une porte d'entrée pour les jeunes, qui fasse des formations, etc. C'est ça?
Alors, vous êtes nombreux? Alors effectivement, on est plusieurs dizaines de militants jeunes à être partis. On voit qu'il y a effectivement plein de gens sur les réseaux qui commencent à s'y intéresser. On se met grave au travail. Juste attendez un peu qu'on ait des choses qui soient assez solides, une fondation idéologique, des choses à vous proposer, un plan d'action. En tout cas, ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que, en fait, la rupture, elle s'est faite sur le fait que l'association dans laquelle j'ai milité, c'est pas du tout qu'elle est pro-police ou, au contraire, printemps républicain, parce que pour le coup, c'est pas la ligne de l'association. C'est plutôt qu'on est dans un antiracisme républicain qui dirait que la République a des promesses et simplement que parfois, la République manque à ses promesses. Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que la République, en fait, c'est plein d'autres choses. C'est les décolonisations, le fait qu'elle a pas avalé les décolonisations. C'est Maurice Papon. C'est la police qui, d'abord, la BAC, est expérimentée dans les Outre-mer et qui, après, en fait... se concrétise dans les quartiers populaires, puis après dans le mouvement social. Ouais, en fait, c'est une différence de lecture qui est extrêmement profonde et qui remet en question l'acteur principal et qui est l'État, quand bien même on a des discriminations dans les cadres de l'inter-individuel et du privé. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a la question de l'islamophobie, mais pas que. Moi, je vous le dis aussi en tant que personne juive, c'est aussi comment on acquiert de nouveau une offensivité dans la lutte contre l'antisémitisme et qu'on n'est pas à la botte soit de l'extrême droite ou de ceux qui font passer la loi anti-immigré de Darmanin, parce qu'en fait, la lutte contre l'antisémitisme, c'est une lutte antiraciste et que moi, je vous le dis aussi en tant que personne juive, je refuse qu'elle soit isolée des autres luttes contre le racisme. Il y a aussi le fait, qu'on se le dise, moi, j'aurais voulu qu'on nous laisse la liberté en tant que jeunes militants antiracistes, dès à présent, de nous laisser nous engager, parce que ça, on ne pouvait pas le faire, nous engager dans les comités palestiniens, dans les lycées et dans les facs. Pourquoi? Parce que déjà, je pense qu'en tant que militants antiracistes, on aurait pu faire des veilles, des pédagogies sur la question du racisme et de l'antisémitisme contre les amalgames, mais aussi parce que une génération qui se politise sur la question palestinienne, politiquement, loin de fantasmes ou d'amalgames, c'est une génération qui, d'une certaine manière, est obligée de regarder le pays dans lequel elle vit. Et en fait, le pays dans lequel nous vivons, c'est un pays qui a un traitement colonial de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de bien d'autres territoires d'outre-mer dans lesquels il n'y a pas d'eau. Et c'est un pays qui a, par exemple, des bases militaires en Afrique. Et le traitement, y compris des immigrés, revient au traitement même de mon corps. Parce que moi, quand il y a des comportements racistes envers moi, c'est que d'une certaine manière, ben, en fait, on s'en fout de mes papiers, mais on me renvoie à une extériorité.
À quoi est-ce que vous voudriez qu'il ressemble ce mouvement antiraciste ? Vous voudriez le faire dans les établissements scolaires, dans les facs, dans les quartiers, sur Internet ?
Alors, on ne va pas se mentir, on est beaucoup de jeunes. Je sais que là, a priori, il va principalement se structurer dans trois unités. On a les lycées, les facs, mais aussi les quartiers populaires. La plupart, on est issus de l'immigration, de quartiers, il y a beaucoup d'étudiants, il y a quelques lycéens. On va prendre le temps de s'investir sur des localités parce que nous, on veut retrouver surtout un engagement qui est extrêmement local et dans lequel, en s'investissant dans les mouvements sociaux, on est capable de réunir des secteurs. Mais des secteurs, là j'en ai parlé, des travailleurs, des lycéens, des étudiants, mais aussi des secteurs de l'antiracisme qui ont déjà un savoir-faire. Nous, on n'a pas l'arrogance de savoir tout faire. Parce qu'en fait, il y a déjà les travailleurs sans papier, il y a déjà les maires des quartiers populaires, il y a déjà les militants des quartiers populaires, il y a déjà des juristes qui travaillent sur beaucoup de questions. Donc en fait, moi je pense qu'on va être une organisation de jeunesse avec les objectifs pointés premièrement la responsabilité de l'État, soutenir sans tabou les causes internationales, pouvoir penser à la réflexivité de l'articulation entre les politiques extérieures de l'État français et les politiques intérieures, savoir dénoncer le traitement colonial des Outre-mer, et enfin, sur le sol français, savoir réunir des secteurs qui ne se parlent plus pour faire en sorte de gagner, parce que je crois que c'est ça la question principale.
Depuis plusieurs semaines, on voit la droite et l'extrême droite s'agiter, notamment en profitant des drames, je pense, de la mort de Thomas à Romans-sur-Isère. Par exemple, on a vu des groupuscules défiler dans les rues, parfois l'intention de faire des ratonnades à l'ancienne. Est-ce que tu penses que les annonces de Darmanin sont suffisantes au point où on en a, il a annoncé des dissolutions de groupuscules.
Mais Darmanin, il est rigolo. Non, mais je l'ai entendu. On peut rigoler parce que pour le coup, Darmanin, il a annoncé seulement un nom. Le nom d'un seul groupuscule, c'est la Division Martel. Qu'on s'entende bien sur ce que c'est la Division Martel, c'est 10 pélos à Paris qui ont entre 14 et 22 ans, qui sont extrêmement jeunes, qui ne sont pas déclarés en préfecture, qui n'ont pas de locaux, qui n'ont pas de drapeau, qui parfois font des descentes en région pour des actions extrêmement violentes. On parle d'expéditions punitives et de ratonnades. Simplement, la dissolution, ça va changer quoi pour eux, vu que matériellement, ils n'ont rien. Les personnes seront là. Enfin, moi, je souhaite que les personnes restent là, mais les idées seront là, surtout. Et puis, ce gouvernement fait rire. Ils ont retiré à la dissolution toute dimension d'exceptionnalité, en dissolvant les associations musulmanes, en pointant du doigt les écolos. Enfin, je veux dire, en fait, nous, à gauche, on a peur parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une dissolution de l'extrême droite, on se dit, bon, bah, est-ce que c'est nous les prochains ? Et là, je crois que le contexte, c'est la priorité, c'est la bataille des idées. Parce qu'avec un gouvernement qui fait passer une loi immigration, ils sont eux-mêmes en train d'entretenir à grande échelle le fantasme de immigration égale délinquance. C'est ce gouvernement, enfin ce gouvernement, le précédent, soit Emmanuel Macron, qui a été le premier à parler de wokisme et d'islamo-gauchisme. Moi, le GUD, quand il vient à la fac de Nanterre et qu'il distribue des tracts, où il y a écrit la fac de Nanterre, la fac de machin, c'est des facs de wokistes et d'islamo-gauchistes, qui sont les premiers à avoir utilisé ces mots ? C'est le gouvernement. Quand on entend une manifestation à Lyon de 160 fachos qui disent immigration, délinquance, dehors, en fait, les personnes qui arrivent à imposer ces thèmes-là de manière mainstream, c'est le gouvernement.
Sacha,
J'ai une question un peu personnelle. Tu pointes beaucoup la responsabilité de l'État. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que plutôt que choisir le monde associatif, pourquoi pas choisir le monde politique peut-être pour faire un peu plus bouger les choses ou d'une autre manière, je ne sais pas.
Très bonne question. Alors, moi, je ne suis pas du tout une meuf des partis parce qu'en fait, je pense que ça renvoie aussi à mon histoire personnelle. Moi, je viens pas du tout d'une famille militante. Moi, mon papa est travailleur dans le bâtiment. Ma maman, elle est aide-soignante. J'ai été élevée avec des valeurs, ce qui a conduit à des politisations. Mais moi, les partis, ça a toujours été un truc inatteignable pour moi. Mais en me politisant, et là où je rejoins ta question, c'est que je crois que l'antiracisme doit s'inscrire dans un projet de société. Et souvent, les projets de société sont portés par les partis. Aujourd'hui, je t'avoue que je ne me reconnais pas dans un parti. J'ai beaucoup de mal, je pense, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Si ce n'est que je vois des évidences, c'est que pour moi, il faut un changement profond, radical, qui a à voir avec notre système économique, qu'on ne pourra pas rester dans le régime étatique qu'on connaît actuellement. Et pour terminer, moi, je pense que ma priorité en tant que militante antiraciste, c'est là pour l'instant de contribuer au mouvement antiraciste, qui compte le veuille ou non. à une structuration faible, en fait.
Usul.
Oui, moi, j'ai été, c'est le symptôme de ça, de cette structuration faible, c'est le manque de réponse. Tu as complètement raison quand tu dis qu'il faut travailler sur le terrain idéologique, il faut travailler sur le terrain politique et social aussi. J'ai été sidéré de voir, justement, après la mort de Naël, la gauche atone. Mmh. Ou divisé, ou chacun joue sa petite partition dans son coin, 7 octobre pareil, et puis surtout les bombardements après. Bon, il n'y a pas de stratégie commune, il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qui se passe en effet maintenant, là, depuis Romans-sur-Isère, il y a des fascistes dans nos rues, tranquille, et pas de réaction de la gauche. Aucun, rien, pas de. Moi, je me suis dit, il y a une autre époque où on aurait envahi la rue. En 34, quand il y a les ligues fascistes qui défilent, derrière, il y a la CGT qui envahit la rue. Mmh. Là, il y a un rôle pour les syndicats, il y a un rôle pour les partis. En effet, les partis ne sont pas en état de mener ce combat-là. Donc, je pense que c'est très, très nécessaire de structurer de nouvelles organisations qui pourraient être l'étincelle aussi pour structurer ce truc-là. Pourquoi il n'y a pas de grande marche? Pourquoi il n'y a rien? Tu l'expliques comme ça par l'absence d'organisation, de structuration?
Il y a une absence de structuration et moi je pense qu'il y a un défaitisme qui traverse notre camp social et qui traverse même les directions des partis, les directions syndicales. Et ce défaitisme, moi, il me fout la rage parce qu'en fait, on vient de connaître une année qui, aussi dure soit-elle, et je vous le dis, je vois aussi plein de jeunes dans un contexte d'inflation, on galère, même moi là je suis à découvert ce soir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on a des esprits qui sont révoltés. On a des esprits en colère, mais pas que, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des gens qui savent proposer du pour, qui ne sont pas seulement contre. Et qu'en fait, là, les directions qui sont plus à la hauteur, c'est bon, on va pas chouiner. Il y a des travailleurs, il y a des lycéens, il y a des étudiants, il y a des jeunes, en fait, qui veulent proposer des choses. Les gens qui sont pas contents, ils ont qu'à voir ailleurs.
Léa, pour le mot de la fin.
Oui, pour le mot de la fin. Moi, je me souviens surtout de la proximité historique d'SOS Racisme avec le Parti Socialiste, avec Drey et compagnie, qui était toujours là. Tu parles de... tu as l'air assez clair sur la question et plutôt disposé à parler de ça, donc je me permets de te poser une question où je vais mettre vraiment les pieds dans le plat. Quand tu dis « ça bloque, on m'a interdit de faire des choses », etc., je veux dire, aujourd'hui, qui est à la manœuvre chez SOS Racisme, en fait?
Oui, j'avais demandé aussi. Oui.
Ouais, on a juste le président.
Mais c'est qui?
C'est le Dominique Sopo, vous le connaissez.
Ah oui, Sopo, oui, d'accord. C'est oui, non, je me disais.
Il est revenu, il y a des nouveaux. Oui, c'est ça, il est redevenu président.
C'est Dominique Sopo, des membres du Bureau national. Aujourd'hui, en tout cas, pour le coup, il n'y a aucun parti, même pas le Parti socialiste, qui s'intéresse à SOS Racisme. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le travail de nombreux jeunes à SOS Racisme, je ne suis pas toute seule, ont contribué à dépoussiérer l'image de l'association. Donc, cette génération de militants antiracistes dont fait partie Dominique Sopo, avec ce dépoussièrement, je pense, ont eu des questionnements légitimes avec l'arrivée de la NUPES, de quel militantisme politique, est-ce qu'il faut se rapprocher d'un parti ou pas, est-ce que nous, en partant de SOS Racisme, peut-être allons-nous militer dans un parti, peut-être au Parti Socialiste. En tout cas, moi, je vois que depuis 2022, il y a eu effectivement des objectifs qui se sont du coup éloignés entre deux générations. C'est qu'il y a une génération qui se disait « comment faire pour que nous, on puisse revenir dans les partis de gauche, acquérir une respectabilité d'État et prendre le pouvoir ?» Je ne dis pas qu'en fait, c'est une réflexion qui est mauvaise. Mais en fait, quand le problème, c'est que ça en vient à avoir un impact sur mon agenda antiraciste, qui devrait pourtant être respecté à gauche, alors là, c'est plus conciliable.
Merci beaucoup, Safia, d'être venue parler sur le plateau de Back 6. Merci à toi.